Reportages, débats, interviews, le magazine du samedi, le rendez-vous hebdomadaire de la rédaction de Cocktail FM, le samedi à 9h30 sur Cocktail FM, la radio des Hauts-de-Vosges.
Actuellement, les artisans vosgiens sont à l'honneur avec Métier Rama, organisé par la Chambre des métiers des Vosges, et notamment de nombreuses portes ouvertes aujourd'hui, samedi. L'occasion pour la rédaction de Cocktail FM de s'intéresser de près à l'un des fleurons de l'artisanat gastronomique des Hauts-de-Vosges, la charcuterie et son fameux fumet récemment mis en valeur au concours général agricole de Paris. La charcuterie Pierrat a été fondée en 1892 à Gérardmer, de petite échoppe à ses débuts. Elle emploie aujourd'hui 35 personnes sur son site high-tech du Toli, où Gérard et Stéphanie Pierrat associent tradition et production à grande échelle. Une histoire qui commence sur un vélo alors que Gérard avait une dizaine d'années. À Gérardmer, Hervé Baudouin lui a repris la charcuterie familiale, sauvée de justesse de la fermeture par son père, qui a vu la fin de 6 boucheries géromoises dans les années 70. Aujourd'hui, Hervé Baudouin fait travailler 9 personnes et s'impose comme l'un des princes du fumet vosgien, une réputation acquise en suivant une vraie passion. Jean-Christophe Givor, poussé par la gourmandise, est entré dans sa boutique géromoise.
Hervé Baudouin, bonjour. Où sommes-nous ici ?
Bonjour, ben là vous vous trouvez dans ma boucherie, dans notre boucherie, je serais tenté de dire, parce qu'on est quand même nombreux et on est une lignée, une descendance de bouchers. Donc vous êtes dans notre boucherie là, à Gérardmer.
On dit de vous que vous êtes un peu l'empereur de la saucisse dans le département. Comment avez-vous acquis cette réputation ?
C'est une réputation, je pense, très exagérée. On est des fabricants, des vrais artisans qui ont une réputation parce qu'on est sur la place depuis bientôt 50 ans. On fait toujours le même travail d'artisan et on commence à être reconnu par les années. On est ce qu'on appelle réellement des bouchers charcutiers. C'est-à-dire que, même je vais aller plus loin, on est acheteurs en vif, des bouchers acheteurs en vif. C'est-à-dire qu'on commence notre travail par l'achat du bétail directement dans les fermes, sur pied, par mon père, par moi-même. On va le dimanche chercher nos bêtes dans les fermes, on les choisit, on les sélectionne, que ce soit le bœuf, le veau pour ce qui est de la boucherie, et le porc pour ce qui est de la charcuterie.
On mange tout.
Ça commence par là, donc c'est agréable, balade campagnarde. J'imagine que vous avez vos lieux de prédilection et vos secrets dans ce domaine.
Oui, c'est vrai que c'est une balade campagnarde, mais c'est vraiment la base du travail, c'est pratiquement le plus important. C'est par là que ça commence. Vous savez, comme disait Prosper Montagnier, on ne fait du bon qu'avec du très bon. Et donc, automatiquement, on doit aller chercher chez nos agriculteurs, bien sûr, avec lesquels on travaille depuis des années également, que l'on connaît. On sait comment ils travaillent, comment ils nourrissent leurs bêtes. Et c'est donc chez eux, sur 10-15 agriculteurs avec lesquels on travaille, qu'on va chercher tous nos bovins.
Comment faites-vous pour savoir, en regardant l'extérieur d'un animal, que l'intérieur va être qualitatif, bon, enfin, je sais pas, une viande bien persillée, etc. Comment faites-vous ça ?
C'est l'expérience. Ça s'apprend de père en fils. Mon père l'a appris. Moi, je l'ai appris par lui-même. Donc ça, on le sait de visu. On fait le travail du maquignon. Plus beaucoup de bouchers savent le faire. Ça. Pas mal de bouchers savent acheter une carcasse à une bête déjà morte. Nous, on sait acheter une bête vivante. Mais ça, c'est l'expérience qui nous l'apprend.
Vous me parlez de maquignon, définissez-moi ce terme.
Le maquignon, c'est le marchand de l'acheteur de bétail, le marchand de bestiaux, comme on dit.
Comment en êtes-vous venu à cette profession ?
C'est une histoire familiale, hein. C'est effectivement mon père qui s'est choisi une voie un jour, et puis qui a été faire ses premières armes sur Nancy, dans des charcuteries. C'était, attendez que je ne dise pas de bêtises, dans les années 50, à ce moment-là. Hein. Et puis donc après, il est arrivé sur Gérardmer, où il a commencé à travailler à la boucherie Thiaville, que certains se rappellent encore, je pense. Et puis après, il a racheté, donc, quand il avait une trentaine d'années, en 1962, il a racheté la boucherie ici, qui était la boucherie Cole, donc où on se trouve actuellement. Et puis voilà, tout a continué, c'est devenu une histoire de famille, ma mère a travaillé avec, puis mon frère, qui est toujours, mon frère Patrick, qui est toujours dans l'entreprise, et puis moi qui ai suivi, et petit à petit, mon épouse, voilà, c'est devenu vraiment une affaire familiale. et puis autour duquel nos collaborateurs se sont raccrochés, des petits gars qui vont bien, qui aiment le travail, qui l'aiment autant qu'on aime la boucherie et la charcuterie.
Alors combien de personnes du coup s'activent chez Baudouin au jour d'aujourd'hui ?
Nous sommes 9, parce que justement le fait de travailler la viande à la base avec des carcasses nous demande beaucoup beaucoup de préparation, et quand on charcute, quand on fait de la charcuterie, effectivement il y a beaucoup de travail à la main, ça demande beaucoup de personnel dans la phase de production, et effectivement en production ils sont 5 et ça fait beaucoup 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 d'heures de travail.
Vous auriez pu aussi dire, ah non, moi je veux pas de ce métier-là, ça, c'est trop de boulot, c'est je sais pas quoi, pas cette disponibilité, trop de viande dans tout ça, j'en veux pas, je fais autre chose. Et vous avez malgré tout choisi ça. Comment il a fait pour transmettre sa passion, votre père ?
Comment il a fait, ça je me demande. Mais je dirais que c'est lui le gardien du temple. Il a toujours travaillé comme ça. Il nous dit, il faut faire comme ça, un point c'est tout. On fait dans l'excellence, on fait dans l'achat de bêtes, on ne doit pas déroger à la règle. C'est venu aussi par le fait que lui a connu des moments très difficiles. Dans les années 70, l'arrivée des supermarchés, la boucherie a connu des moments très 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 durs. Il y avait deux solutions, où il fallait s'accrocher, où il fallait fermer. Mon père a décidé de s'accrocher. Dans le métier qu'il faisait, il a repris un camion de tournée, il est parti faire des tournées, il a continué à acheter directement aux agriculteurs aussi pour des questions de coûts. Évidemment, en supprimant des intermédiaires, on avait quand même déjà un coût d'achat qui était un peu plus bas. Et donc il s'est accroché à ça, et à cette idée, et il nous l'a passé tout simplement avec la passion de la fabrication maison, du goût, des bonnes choses. On nous a appris ça aussi, à aimer les bonnes choses, sinon ben, on ferait du n'importe quoi, on ferait du pas bon. Et donc je crois que c'est venu tout simplement, comme les parents nous apprennent à marcher, à écrire, à lire, et ils nous ont appris à charcuter et à vendre de la bonne marchandise.
Dans les Vosges, on a aussi nos particularités charcutières. Vous pouvez un petit peu me décrire justement ce qui fait le cachet vosgien de la charcuterie.
La spécialité de la charcuterie vosgienne, c'est quand même la viande fumée. Et ça reste une grosse proportion de ce qu'on fabrique à côté des charcuteries très traditionnelles comme le jambon, les saucissons, les fromages de tête que vous retrouvez un peu partout en France. Mais c'est vraiment les spécialités fumées. Hein, tout ce qui est la viande fumée qu'on connaît, la poitrine fumée par excellence, les palettes, le collet, les saucissons style gendarme, les fuseaux lorrains. Hein, qui est un saucisson sec pur porc fumé. C'est vraiment le produit de la région, on ne peut pas s'en passer. Le Géromois, le Vosgien ne peut pas s'en passer. Et les touristes, quand ils arrivent à Géromais, ils ont besoin de ça aussi. Comme ils repartent avec un petit peu de linge, ils repartent avec un petit bout de poitrine fumée.
Des bons dans le cochon, du groin jusqu'au jambon. C'est bon. La rate et les rognons, la queue en tire-bouchon. C'est bon. Désormais, je veux chanter le cochon, le pâté et le saucisson. C'est bon. Répétons sur ces airs polissons. Qui c'est qui est bon chez le cochon, c'est bon. Je pourrais dire bien des choses sur son talent.
Alors de temps en temps, quand on passe en face de chez vous, ça sent effectivement bon le fumé. Ça sent pas la fumée, ça sent bon le fumé. Alors quand est-ce que ça sent la fumée?
Ça c'est une bonne question. Non mais c'est vrai que chez nous, tous les jours, il y a de la viande fumée qui tourne, qui est au fumoir. Donc c'est vrai qu'il y a toujours cette odeur qui doit un petit peu s'imprégner autour. Et puis on en fait quand même des quantités qui sont déjà assez importantes. Hein. Par semaine, on abat... Je parle en termes d'abattage parce que c'est vrai ce que l'on fait nous. Hein. On abat 15 porcs par semaine, ce qui représente 1,2 tonnes, 1,3 tonnes de carcasses de porcs à travailler. Tout.
Le cachet Baudouin, où se trouve-t-il ? Sur quel produit charcutier se trouve-t-il ?
Je dirais pas qu'on a une spécialité, c'est vraiment la viande fumée de porc dans son ensemble. On travaille, comme on dit, tout est bon dans le cochon, même en matière de fumée, on travaille tous les morceaux qui vont du filet mignon jusqu'à la poitrine, la palette, le collet, enfin tous les morceaux, la bajoue, tous les morceaux du porc peuvent se fumer. Donc c'est vrai qu'il n'y a pas un produit phare, c'est tout le produit viande fumée dans son ensemble.
C'est bien du cœur, c'est bon, c'est le cochon, c'est bon.
Plus tous ceux qui le veulent, plus lui, plus elle, et tous ceux qui sont seuls, allez, venez, et entrez dans la danse, allez, venez, laissez faire l'insouciance à deux, à mille, je sais qu'on est capable, tout est possible, tout est réalisable, on peut s'enfuir,
bien plus haut que nos rêves. On peut partir bien plus loin que la grève. Oh, toi, plus moi, plus tous ceux qui le veulent, plus lui, plus elle, plus tous ceux qui sont seuls. Allez, venez et entrez dans la danse. Allez, venez, c'est notre jour de chance. Avec l'envie, la force et le courage, le froid, la peur ne sont que des mirages. Laissez tomber les malheurs pour une fois. Allez, venez, reprenez avec moi. Oh, toi, plus moi, plus tous ceux qui le veulent, plus lui, plus serre, et tous ceux qui sont seuls. Allez, venez et entrez dans la danse. Allez, venez, laissez faire l'insouciant. Je sais, c'est vrai, ma chanson est naïve, même un peu bête, mais bien inoffensive. Et même si elle ne change pas le monde, elle vous invite à entrer dans la ronde. Oh, toi, plus moi, plus tous ceux qui le veulent, plus lui, plus elle, et tous ceux qui sont seuls. Allez, venez et entrez dans la danse. Allez, venez, c'est notre jour de chance. L'espoir, la peur, font tout ce qu'il te faut. Mes bras, mon cœur, mes épaules et mon dos. Je veux te voir, des étoiles dans les yeux. Je veux nous voir, insoumis et heureux. Oh, toi, plus moi, plus tous ceux qui le veulent. Je suis plus seul, tous ceux qui sont seuls. Allez, venez, et entrez dans la danse. Allez, venez, laissez faire l'insouciance. C'est toi, plus moi, plus tous ceux qui le veulent, plus lui, plus elle, et tous ceux qui sont seuls. Allez, venez, et entrez dans la danse. Allez, venez, c'est notre jour de chance. C'est toi, plus moi, plus tous ceux qui le veulent, plus lui, plus elle, et tous ceux qui sont seuls. Allez, venez, et entrez dans la danse. Allez, venez, et entrez dans la danse.
Le magazine du samedi, le samedi à 9h30 sur Cocktail FM, la radio des Hauts-de-Vosges.
C'est d'une simplicité à faire le fumé.
Hein, bon. Hervé Baudouin, artisan charcutier à Gérardmer.
Je vous disais, au départ, il faut un bon produit, il faut un bon porc, c'est le principal. C'est ce qui va déjà faire 50% du produit. Après, c'est simple, hein. On prépare la poitrine, on la pare, on la désosse, on la sale. Tout simplement, il y a un temps de salage, il y a un temps de dessalage pour que le salage soit bien à cœur, mais extérieurement, il soit moins. Hein. Donc il y a obligatoirement un petit dessalage. Tout simplement dans l'eau, hein. On plonge la poitrine dans l'eau un certain temps également, et puis après c'est bon. Donc ensuite, bah, de nouveau très simple, on accroche cette poitrine fumée dans le fumoir, qui est une pièce un peu plus simpliste, hein, quatre murs avec des barres. On accroche la poitrine et en dessous, on fait du feu. On fait du feu avec du bois de hêtre. En majorité, nous on utilise hêtre et chêne. On couvre un petit peu avec, avec un petit peu de sciure pour pas que ça brûle de trop, mais que ça fume. Et puis après on laisse fumer, et ben c'est normalement deux journées.
Vous me parlez d'un mélange de hêtre et chêne. Qu'est-ce que ça change par rapport à du hêtre pur, par exemple?
C'est surtout une histoire de tanin. Par exemple, si vous prenez du sapin, c'est un bois très acide. Ça va donner une acidité à votre fumée. Ça peut être apprécié, hein. Mais on préfère la douceur du hêtre, qui est quand même un bois plus doux.
D'accord, c'est une histoire de rondeur alors.
Voilà.
Si on fume la viande dans les veaux, j'imagine que c'est pas par hasard, il y a une histoire qui est liée à ça.
Le fumet est tout simplement à la base un moyen de conservation. Tout bêtement, dans le temps, on tuait le cochon en hiver et puis on voulait le tuer, on voulait le garder le plus longtemps possible. Donc on avait trouvé cette solution dans les Vosges qui est un pays un tout petit peu humide, il faut le reconnaître. Si on mettait à sécher, ça ne séchait pas. Donc la viande, ma foi, au bout d'un moment pourrissait au lieu de s'en conserver. Donc on avait trouvé, je suppose, cette solution de le fumer pour pouvoir déjà préparer le séchage. Et après on pouvait conserver donc ces pièces fumées pendant des mois et des mois et des mois.
Le cochon qui va servir à faire cette poitrine, alors doit-il être gras, plutôt maigre? En clair, est-ce que c'est un porc charcutier? C'est quoi? C'est un large white? C'est de quoi s'agit-il en fin de compte?
Alors nous, on utilise ce qu'on appelle des porcs charcutiers. Le porc charcutier, c'est un porc qui n'est pas très lourd. Déjà, il faut s'adapter aussi à la demande du consommateur. Il est clair que les porcs qu'on faisait dans le temps, qui faisaient 120, 130, 140 kilos, étaient forcément gras. Parce qu'au bout d'un moment, le porc produit un peu plus de graisse qu'il ne faut. Et aujourd'hui, on ne pourrait plus vendre ça. Donc nous, on utilise des porcs charcutiers qui font en carcasse à peu près 80 kg de moyenne, c'est-à-dire 100 kg vivants. Il est arrivé à maturité, donc il est gras juste ce qu'il faut. Il ne faut pas non plus qu'il soit trop maigre, parce qu'on appelle, une fois qu'une viande est trop maigre, on appelle le porc en jargon charcutier un porc pisseux, c'est-à-dire qu'il va vous faire de l'eau, de l'eau, de l'eau, de l'eau. Il faut qu'il y ait ce pourcentage de graisse pour avoir une bonne tenue de la viande, qui permettent d'avoir un bon produit fumé en fin de compte.
Vous avez une race de porc de prédilection, justement, pour trouver cet équilibre entre gras et viande?
J'ai pas une race de porc, j'ai un éleveur. C'est le plus important. C'est son travail à lui de trouver le bon compromis, de faire les bons croisements entre les porcs pour avoir justement le produit que moi je recherche. Et j'ai un éleveur qui s'appelle Christian Collin, qui est pas très loin d'ici, à la Neuville devant l'Épange, et qui me fait donc mes porcs charcutiers, et de façon, je dirais, très très bien, quoi.
Vous m'avez dit tout à l'heure, dans le cochon, tout est bon. Finalement, qu'est-ce qui reste sur un cochon, on va dire, qui fait donc 80 kg carcasse au départ, qu'est-ce qui reste en termes de déchets? Qu'est-ce qui passe à la poubelle en termes de poids?
Il n'y a pas grand-chose qui passe à la poubelle, à vrai dire, hormis les os qu'on ne va pas utiliser. Bon, des os, vous en allez en retrouver dans les côtes, mais il y a d'autres produits où on va désosser. Donc, effectivement, sur un cochon, on n'a pas beaucoup de pertes, parce qu'on utilisera même l'oreille, on utilisera la couenne, on utilisera vraiment tous les morceaux. Le pied, dans le porc, vraiment, il n'y a quasiment pas de déchets. C'est un animal superbe à travailler.
Il y a 10-15% de déchets, quelque chose comme ça?
Un maximum, oui. Ouais.
Comment on fait le fameux fuseau lorrain? D'abord, pourquoi on appelle ça un fuseau?
Un fuseau lorrain, c'est un saucisson sec pur porc fumé. Pas bien compliqué, en fait, de faire un saucisson sec. Il faut choisir les bons morceaux, la bonne quantité de maigre, la bonne quantité de gras.
C'est séparé au départ, hein.
C'est séparé au départ. Bon, il y a des morceaux qui sont plus ou moins gras, qui sont mis à côté, des morceaux plus ou moins maigres, et puis on essaye de trouver la bonne proportion pour avoir le produit qui soit le plus agréable à manger. Ensuite, c'est haché, c'est travaillé, c'est assaisonné, tout simplement embossé dans ce qu'on appelle des fuseaux. C'est le terme du boyau, en fait, qui s'appelle un fuseau de porc.
Alors c'est un boyau plutôt épais, plutôt fin?
C'est relativement épais, le fuseau de porc. C'est relativement épais. Et puis ensuite, tout simplement, comme je vous le disais, c'est fumé. Donc on le passe un petit peu au fumoir et on le fait sécher comme un saucisson sec à l'air libre.
Bah quand même, on peut peut-être dévoiler un petit peu qu'est-ce qu'on met comme morceau de la viande de porc dans le fuseau.
Oh oui, c'est un mystère. Non, c'est pas un mystère. Mais simplement, je dirais pas qu'on a des morceaux de prédilection, mais on choisit vraiment des morceaux maigres qu'on va trouver soit dans l'épaule, soit dans la poitrine, et puis on va chercher des morceaux un peu plus gras dans l'abat-joue.
L'alchimie d'un fuseau réussi, c'est cette proportion entre gras et maigre, et puis j'imagine la façon d'épicer et la durée de séchage.
Voilà, effectivement, ça c'est trouver le bon compromis entre le gras et le maigre. Il ne faut pas que ça soit trop maigre parce que le saucisson va être trop sec. Il faut savoir aussi que le gras transporte les saveurs, donc il faut aussi un petit peu de gras pour que justement ça apporte la bonne saveur, tout simplement. Après, on a chacun nos petits secrets de fabrication, le petit truc en plus qu'on va mettre dedans pour apporter un petit peu plus de saveur, l'épice que l'autre ne mettra pas, qui fait que on préfère celui-là à un autre, tout simplement.
Quel regard portez-vous sur la charcuterie industrielle? Vous pouvez balancer, hein.
Non, je vais pas balancer. Non, parce que moi, je suis assez pragmatique là-dessus. Je pense qu'il en faut pour tout le monde, il en faut pour toutes les bourses, et il en faut pour tous les goûts. C'est très bien, il faut de la charcuterie industrielle. Si les industriels font leur travail correctement, il n'y a pas de raison. Ça peut plaire à certains, et puis si la bourse n'est pas trop grosse, on ne peut pas non plus payer des choses trop chères. Donc ils sont là pour pallier à ce manque peut-être d'argent de certaines personnes. Mais non, je crache pas sur les industriels du tout. Ils font leur travail, je fais le mien, c'est très bien.
Quand même, quand on voit une tranche de jambon a une drôle d'odeur et qui laisse tomber de l'eau quand on la regarde, elle pleure, ça vous fait pas pitié?
Ça me fait pitié, mais moi j'en mangerai pas de toute façon. Non, mais on a chacun ses besoins, ses envies. Non, effectivement, j'irai jamais manger ça. Je sais très bien comment ça se fabrique. Je peux pas, ça me plaît pas, je le ferai pas, ça c'est clair et net. Mais bon, chacun ses choix. Et puis voilà, quoi, tout simplement.
Bien, Hervé Baudouin n'est donc pas un tonton flingueur. Pour autant, il faut tout de même dire que la différence de prix entre la marchandise industrielle et les produits d'un charcutier n'est pas si importante que ça. La différence de qualité, en revanche, c'est une autre affaire.
Magazine du samedi, le samedi à 9h30 sur Cocktail FM, la radio des Hauts-de-Vosges.
Après avoir rendu visite à Hervé Baudouin dans son échoppe jéromoise, cette fois c'est le charcutier Gérard Pierrat qui est venu d'Utoli jusqu'à Cocktail FM. Petit rappel, la charcuterie Pierrat vient de quitter Julien Rue pour s'installer dans la zone artisanale du Béillard, dans un bâtiment ultra moderne avec des techniques high-tech et 35 employés. Pour autant, chez Pierrat, on se prévaut de rester des artisans très passionnés. La preuve par Gérard Pierrat.
Aujourd'hui, je suis un retraité. Ce métier qui m'a pris depuis mon enfance quasiment, hein, puisque j'étais avec mon père qui était déjà donc boucher charcutier. Bon, vous le savez peut-être, mon grand-père était fondateur de la dynastie, on peut considérer ça comme ça, je pense. On vivait en famille, bien sûr, dans la maison. J'ai toujours eu une activité dans la viande, puisque mon père était donc boucher charcutier. Je faisais les livraisons à bicyclette. Je montais à Martinpré avec 20 kilos de saucisses sur le porte-bagages. Enfin, c'était du folklore. Ensuite, j'ai travaillé à plein temps dans l'établissement. Ensuite, on était militaire 3 ans quand même pour nous garder en forme. Je suis revenu, j'ai fait quelques stages à l'école supérieure des métiers de la viande à Paris, boulevard Soult, qui fonctionne toujours d'ailleurs. Et on a eu d'excellents professeurs qui étaient très dynamiques, qui nous faisaient travailler du lundi matin au dimanche midi. Je pense que c'était intense, mais absolument exceptionnel pour les jeunes comme nous, qui sortions d'un métier artisanal et nous faisaient rentrer un petit peu dans un métier beaucoup plus technique.
C'est comme ça qu'est venue la transformation.
Oui, exactement. C'était un petit peu le cursus de l'activité, dans le sens qu'on a eu un représentant qui recherchait quelques produits pour livrer sur Nancy à ses clients, au marché couvert, et quelques boucheries de détail. Et puis on a commencé comme ça. En 85, donc comme j'avais repris l'entreprise en 69, au moment des événements, là, j'ai toujours voulu être un petit peu singulier. En 85, nous avons emmené l'entreprise à Jussarue, dans un cadre beaucoup plus large, de façon à pouvoir faire évoluer la production, puisqu'il nous faut quand même du volume et du froid dans notre métier, donc il faut de la surface. On a continué comme ça, et donc depuis 2010, maintenant, nous sommes installés à Autoli, dans un établissement complètement innovant, très moderne, je pense.
Un déménagement qui avait d'ailleurs fait grand bruit dans le petit monde économique vosgien, d'autant que les bâtiments étaient conformes aux nouvelles normes et inaugurés par le préfet Dominique Saurin en personne. Rappel des faits, c'était au mois de juillet. Ce jeudi, au Tolly, sur le site du Rimbris, c'est le préfet Dominique Saurin en personne qui a pris les commandes d'une énorme machine pour déposer la dernière pierre des futurs bâtiments des établissements Pierrat, le charcutier créé à Gérardmer en 1892.
Voilà. Bravo. Voilà.
C'est fait. Un symbole fort pour cette toute petite entreprise née à Gérardmer en 1892 et qui est devenue un acteur économique d'importance dans les Vosges. Dominique Serin, le préfet des Vosges.
J'ai tenu à venir visiter cette entreprise, enfin, qui existe depuis longtemps, 1892, qui est en train de se développer, parce que c'est un bel exemple de réussite que les services de l'État ont appuyé dans ces démarches. C'est une entreprise qui, encore il y a quelques années, comprenait 7 salariés. Aujourd'hui, ils sont à 30, ils vont passer à 40. Et je crois qu'il est absolument indispensable d'encourager ce type d'entreprise qui contribue à mailler notre territoire au moment où il y a des problèmes de ralentissement de l'économie, des problèmes de chômage. Il y a aussi des exemples de réussite. C'est exemplaire. Et je crois qu'il faut les encourager à tout prix. C'est ça le sens de ma visite.
Une entreprise qui produit aujourd'hui 1400 tonnes de marchandises par an déclinées sur 190 produits, dont une bonne partie sont régulièrement primées d'excellence par des labels comme Vosges Terroir. La nouvelle unité de fabrication du Tolly est aussi synonyme d'ouverture sur de nouveaux marchés pour Pierra, qui vise notamment les collectivités mais aussi l'export vers la Belgique ou même vers la Chine. C'est un cas exemplaire en France qui allie la tradition comme le salage à sec ou encore le fumage au sapin avec des sciures achetées localement et la haute technologie. Explication avec la présidente générale de Pierra, Stéphanie Pierracuna.
Le projet a consisté à réfléchir à des innovations en termes environnementaux, donc surtout en économie d'énergie, surtout pour éviter des pollutions de fumée, de bruit, de tas de choses. Nous avons investi notamment dans une centrale de froid totalement innovante. Nous serons un site pilote. En termes d'investissement, c'est très lourd, mais par contre, on prend soin des futures générations. Nous avons des spécificités en termes de produits, de fabrication, de process. Donc, tout en ayant une capacité de production qui sera bien évidemment augmentée, on va garder notre identité. Lorsque l'entreprise a déménagé il y a une vingtaine d'années de Gérardmer à Jussarue, nous étions 7. Aujourd'hui, nous sommes 32 salariés précisément.
Un sujet du journal du 24 juillet 2009, retour en 2010. Vous combinez d'ailleurs une chose assez singulière, c'est-à-dire la tradition, parce que finalement c'est toujours du véritable artisanat, et le high-tech dans vos bâtiments.
Voilà, alors bien sûr, nous travaillons d'une matière première qui est la viande, qui est un produit particulièrement délicat, sous tous ses aspects. On ne pense pas que la viande est un produit très technique, fragile, cher, et que nos prix de vente ne sont pas en adéquation avec le coût réel de la production et surtout le coût réel des matières premières. On a des coefficients de marge très très faibles. La profession fonctionne avec un résultat de 2% par rapport au chiffre d'affaires, ce qui est complètement insignifiant dans ce monde moderne où il nous faut énormément de technologie et d'investissement. Pour mémoire, j'ai fait des relevés de prix que j'ai vendus à mes clients il y a 25 ans. J'ai ressorti mes bordereaux de livraison et on n'a pas, dans l'ensemble des produits, dépassé le COEF de 1,85 par rapport à 1985. Donc on n'a aucun prix qui ont doublé depuis. Et même, il y a certains produits, enfin 2009, qui étaient moins chers qu'en 1985. Je parle au prix de vente en gros.
C'est le bras de fer la distribution.
C'est-à-dire que la distribution vit avec nos collègues aussi, hein, donc c'est un marché très ouvert. Hein. Je suis président du syndicat des charcutiers de l'Est, donc je défends tant que je peux tous ceux qui travaillent la viande.
Alors comment fait-on pour effectuer un travail artisanal en traitant 1400 tonnes de viande ?
Il faut du monde, puisque il y a du personnel. L'automatisation de la viande est une chose particulière, c'est-à-dire que il faut les hommes avant les machines et après. Ce sont quand même eux qui réalisent le produit. Donc il y a toujours la main humaine qui intervient, il y a le savoir-faire, il y a comment on fait des petites séries, on peut considérer ça comme tel. Il y a quand même quelqu'un qui est au poussoir, donc il faudrait qu'il ait les saucisses, donc qui enfile le boyau, qui les fait tourner, etc. Si on parle des jambons, c'est pareil, il y a du désossage, il y a du parage, il y a du salage, il y a du moulage, de la cuisson, des moulages, etc. quoi. Toutes ces choses-là se font manuellement, sans être automatisées. On fabrique toujours des produits que mon père fabriquait, hein. Les saucisses à cuire, le saucisson à l'ail, qu'on appelle du à l'ail, suite au fameux film. Au fameux film. On se maintient quand même toujours dans notre production régionale. Hein. Et on a pas mal de produits qui sont reconnus au Vosges Terroir, ainsi qu'à la Lorraine, notre signature, au niveau de la région. On va faire évoluer un peu la gamme, ça c'est obligé d'ailleurs tous les ans. Stéphanie avec moi, on a quand même mis au point le jambon au foin. Et ensuite on a sorti le jambon au sapin qui a obtenu le prix d'innovation en Lorraine et ensuite qui a été reconnu au Salon international de l'alimentation et qui a été reconnu comme un produit innovant. Donc on s'est retrouvé quand même sur le stand produit innovant. Et
là vous touchez à l'international là.
Hein, voilà. Oui, on a intéressé beaucoup de monde, mais nos capacités de production n'étaient pas tout à fait adaptées à ce qui va venir maintenant.
C'est appelé à se développer, Pierre.
Eh ben, je pense que oui. On a mis en place un service commercial avec un responsable commercial.
C'est l'interface justement qui manquait peut-être entre le côté artisanal de la charcuterie Pierrat et le passage à une distribution plus large, une cible clientèle plus large
pour la simple région. Et puis aussi garder ce contact humain avec nos clients, qui est une chose indispensable quand même.
Des objectifs récompensés puisque la saucisse fumée des Pierrat a reçu la première médaille en bronze du concours général agricole de Paris il y a quelques jours. Une première et un signe de reconnaissance pour l'excellence des produits du terroir vosgien. Quant à Hervé Baudouin, il est à l'honneur dans la dernière sortie du trimestriel Massif des Vosges, à lire en complément de ce reportage. Merci d'ailleurs de l'avoir suivi. Prochain magazine du samedi prochain. D'ici là, portez-vous bien, excellent week-end et à très bientôt.